Salut tout le monde, ici Stu Pitt et bienvenue à ce Dedans le Pitt du 12 septembre 2017. Et ce soir, je vais parler de la commission sur le racisme systémique qui a été demandée par une poignée de justiciers sociaux et évidemment qui a été acceptée d'emblée par le Parti libéral du Québec. D'ailleurs, même les jeunes du Parti libéral du Québec avaient demandé dans un congrès une commission sur le racisme systémique parce que c'est vraiment urgent, mesdames et messieurs. Il y a au Québec une montée incroyable du nazisme, du fascisme. C'est fou. La population, en général, vous le voyez pas parce que vous êtes des ignorants puis des imbéciles. Mais ces grands penseurs-là, dans les universités, vous savez, là, les sciences molles de tricotage, eux autres, ils savent. Et d'ailleurs, quand ils font des congrès, ils en parlent de ça, de la radicalisation qu'il y a au Québec. Mais là, ils ne parlent pas ici là, de l'islam politique, des gens qui. Même des Québécois ou des musulmans qui vont se radicaliser, qui sont allés se battre en Syrie. Non, on ne parle pas de ça. C'est un détail, ça. On parle vraiment de vous, les Québécois, avec vos privilèges blancs. Et même si vous êtes, par exemple, un Italien et un Grec, et autrefois, vous étiez considéré comme une minorité visible, ben vous ne l'êtes plus maintenant parce que, bon, vous êtes adapté à notre société et vous réussissez bien. Donc, vous faites partie du blanc triarcat, du problème. Vous faites partie du racisme systémique. Oui, parce que, comme il y a des racisés, ben si vous n'êtes pas racisé, vous êtes forcément un raciste. Une chance qu'il y a cet organisme-là... Avec Maxime Fizet et Herman de Paris au combat. Une chance qu'ils sont là, mesdames et messieurs, pour empêcher les gens de se radicaliser davantage. Ils ont des performances incroyables. Ce 2 millions par année est super bien investi. Alors, je vais parler de ce racisme systémique, mais avant, je voudrais remercier mes patrons qui sont là à l'écoute. Et c'est ça, je vais parler un petit peu de mon Patreon. Donc, vous savez que j'ai un projet présentement de studio, j'ai de l'équipement acheté, mais beaucoup d'équipement. Ben, en fait, pas beaucoup d'équipement, mais qui coûte très cher. La première phase du studio que je veux bâtir va coûter 10 000 $. Donc, du nouvel équipement avec l'équipement que j'ai là peut faire en sorte que avec un studio, je pourrais vraiment augmenter la qualité. Non seulement de mes émissions, mais également inviter d'autres créateurs de contenu à venir dans mon studio. Donc, c'est un projet. Il y a des créateurs qui sont intéressés. Donc, c'est vraiment cool. Et une façon de financer ça, ben, c'est avec mes Patreon. Vous voyez l'adresse en bas de l'écran, patreon.com/stupid. Alors, ce que vous pouvez faire si vous aimez les émissions que je fais. Et maintenant, c'est en version podcast depuis 7 semaines. Donc, vous allez là-dessus, patreon.com/stupid, et vous cliquez sur « Become a patron ». Et vous pouvez donner 1$, 3$ ou 5$ par vidéo que je vais faire et que je mets sur le Patreon. Donc, ce n'est pas tous les vidéos que je mets sur Patreon. Donc, vous contribuez comme ça. Et vous pouvez mettre une limite aussi par mois. C'est-à-dire, vous pouvez dire « ben je vais te donner 3$ par vidéo, maximum 9$ ou 12$ ». Ou je vais te donner 5$ par vidéo, mais maximum 15$ ou 20$ ou 1$ par vidéo, maximum 1$. Il y a des gens qui font ça également, mesdames et messieurs. C'est pas tout le monde qui est bien nanti. Alors, merci. Et ceux qui ne veulent pas se casser le bessic avec le Patreon, vous pouvez toujours faire des dons à l'adresse, encore une fois, paypal.me-stupid. Donc, vous en contribuant financièrement à cette émission-là, puis à mon Patreon, puis mon PayPal, ben vous mettez des briques du studio que je suis en train de préparer. Et la deuxième phase de ce studio-là va coûter 30 000 $. Mais savez-vous quoi? Pensez-y deux minutes. Là. Il y a 30 000 $ qui n'est pas un immense montant quand on y pense. Là. C'est un gros montant pour des gens comme nous autres qui ne sont pas riches. Mais le InfoWars québécois, il y a 30 000 $ qui séparent ça de maintenant avec... Vous savez, les créateurs de contenu qui cherchent ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup d'équipement, ils ont de la difficulté à avoir une belle image, un beau son, etc. Donc, ces gens-là pourraient avoir une adresse avec mon studio. Ça serait vraiment, vraiment le fun. Vous savez, ceux qui font du podcast au Québec et les créateurs de contenu, par exemple l'équipe de Nomos TV, cette équipe-là est beaucoup plus compétente que n'importe quel journaliste dans n'importe quel média de masse. Imaginez si on pouvait avoir ensemble ce média alternatif-là qui clencherait tous les médias de masse. Ce serait exceptionnel. Alors, mais le message est passé. Donc, le racisme systémique, ça a commencé. Je vais mettre ici. Oups, je me vois la face. Par cet article de la presse Opinion Société, pour une commission sur le racisme systémique, qui est écrit par un collectif. Et ça dit ici, la liste des signataires suit le texte. Alors ça, c'était le 4 mai 2016, donc un peu plus d'un an, où il y a un collectif qui disait, écoutez, là, on pèse sur le bouton de panique, mesdames et messieurs, il y a un racisme systémique. Au Québec, vous n'étiez pas au courant, mais nous, les intellectuels qui travaillons et on fait des études, nous, sur le racisme, sur la radicalisation, et on voit qu'il y a une montée exceptionnelle du racisme. Non seulement du racisme, mais du racisme systémique. Alors, le racisme est-il un grave problème au Québec, autant qu'ailleurs en Occident? Oui, parce qu'on sait que c'est en Occident qu'il y a le plus de racisme. Lourde question qu'on devrait se poser. Plusieurs chiffres nous donnent déjà une triste idée de la réalité. Et on va voir ces chiffres, vous allez voir. En 2015, une étude de l'Université McGill démontre que le premier facteur déterminant une plus grande présence policière dans une ville n'est pas le taux de criminalité qui y sévit, mais le nombre de personnes racisées et autochtones qui y vivent. Plus surveillées, ces personnes sont donc plus nombreuses derrière les barreaux. En 2013, l'enquêteur correctionnel Howard Sapers révélait qu'au cours des 10 dernières années, la population carcérale autochtone avait augmenté de 46,4%, celle des Noirs de 90%, mais que celle des personnes blanches avait diminué malgré un taux de criminalité similaire. Alors, en partant, c'est de la grosse bullshit, puis je vais vous dire pourquoi. Depuis, je crois, les années 80 ou 90, mais il me semble que c'est plus 90. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui pourraient sortir la stats. C'est interdit maintenant de ramasser des statistiques sur l'origine ethnique du contrevenant, du ou de la contrevenant, contrevenante. Donc, quand ils disent ici qu'il y a un taux similaire de crimes commis par les Noirs, les Autochtones et les Blancs, c'est impossible pour eux de le savoir parce que ces stats-là ne sont plus compilées. Alors, ils arrivent avec des chiffres, mais ces chiffres-là ne sont absolument pas crédibles. Et donc, ce qu'ils essaient de vous faire croire, ces gens-là, c'est que les villes ou la province vont mettre plus de policiers dans des endroits où il y a une plus grande concentration de personnes racisées, ou comme moi j'aime mieux les appeler des minorités visibles, juste parce qu'ils sont racistes et non pas parce que dans ces secteurs-là, il y a plus de crimes. Je demeurais à Montréal et souvent, sur ma rue, il y avait des vols, je me suis fait défoncer ma voiture. Et quand vous allez dans des secteurs, certains secteurs de Montréal, il y a plus de criminalité et parfois, ça donne que dans ces secteurs-là, il y a plus de personnes racisées aussi. Mais encore là, on ne peut pas faire de statistiques parce qu'on ne compile plus ces statistiques-là. Donc ça, c'est la première chose, de la grosse bullshit. Et si on regarde plus bas, qui a signé ça? Évidemment, Suzy Obam-Sawin, Will Prosper, Arun Boisé, Gérard Bouchard, puis une panoplie de personnes. Mais nos deux suspects... Will Prosper et Arun Boisé, évidemment, n'en manque pas une, ils sont toujours au rendez-vous. Parce que c'est une carrière pour eux, la carrière de la victimisation, la carrière du racisme, etc., etc. Et vous remarquerez que Parmi les gens racisés, il n'y aura pas beaucoup de Vietnamiens là-dedans, étrangement. Hein, c'est bizarre, hein? Pourtant, eux autres, ils s'en sont très bien sortis au Québec. D'ailleurs, le salaire médian des Vietnamiens est supérieur aux Québécois et ils sont plus diplômés que les Québécois. Il y a 30% des Vietnamiens qui ont un diplôme universitaire, un bac ou plus, versus 20% des Québécois. Mais eux autres, on ne les entend pas chialer. Ils ne se plaignent pas de racisme, eux autres, puis ils ne se plaignent pas de racisme systémique. Donc, faut être cave pour penser qu'il n'y a pas de racisme au Québec, parce que du racisme, il y en a partout sur la planète, incluant ici au Québec. Mais il n'y a aucune évidence de racisme systémique. Si vous dites, par exemple, les Noirs à Montréal, ça, c'est une vraie stat. En fait, au Québec, dans la population haïtienne, et je parle pas africaine, je parle haïtienne, il y a 15% des Haïtiens qui ont un baccalauréat ou plus. Et ce qui est étrange, c'est que au niveau du pourcentage d'études postsecondaires, les Haïtiens battent les Vietnamiens. Mais au niveau du baccalauréat, des études universitaires ou plus, ils sont à 15%, les Québécois environ 20 et les Vietnamiens 30. Alors c'est sûr que le Vietnamien, en moyenne, le salaire médian, font plus d'argent que les Québécois francophones. Et ils font plus d'argent que les Haïtiens parce qu'il y a une corrélation entre ton niveau d'études puis ton salaire. Et les statistiques sont très constantes à ce niveau-là. Alors, évidemment que si on regarde le gouvernement libéral sous Jean Charest, c'était pas pressant une commission sur les fraudes en construction puis tu sais toute la magouille, ça pressait pas, ben non, il y en a pas, etc. Donc ça a pris du temps avant qu'ils mettent sur pied la commission Charbonneau, et même que cette commission-là avait pas vraiment de vrai pouvoir, ça a bretté. Et la conclusion était qu'il y a de la fraude quasiment mur à mur dans construction entre les firmes d'ingénierie. On a vu des élus à Montréal, mesdames et messieurs, Laval, Terrebonne, des maires se faire prendre la main dans le sac avec, écoutez, des magouilles. Puis on peut extrapoler, là, on a vu le Parti libéral corrompu à la moelle, et beaucoup de maires, beaucoup de municipalités. Et pourtant, même après cette commission-là sur la construction, Jean Charest marche toujours parmi nous. Et il est milliardaire. Mais ça pressait pas, cette commission-là. Mais une qui presse, c'est la commission sur le racisme systémique. Alors on voit ici, consultation sur la discrimination systémique au Québec dès septembre. Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi que sa consultation sur la discrimination systémique et le racisme sera confiée à la Commission des droits de la personne. Des séances auront lieu partout dans la province en septembre et en octobre. La ministre québécoise de l'immigration, Kathleen Wheel, a d'abord souligné en conférence de presse que la lutte contre le racisme et la discrimination était une priorité pour son gouvernement. Pas l'économie, pas la fraude. Le racisme systémique n'existe pas. Je suis très fier, dit-elle, de réaffirmer aujourd'hui la volonté du gouvernement du Québec de tenir une consultation sur la discrimination systémique et le racisme, avant de préciser que l'exercice devra prendre la forme, des consultations en région avant la tenue d'un forum réunissant des experts et des acteurs du milieu en novembre 2017. Et évidemment, on a su récemment que tout ça, ces consultations-là, allaient se faire à huis clos. Et oui, mesdames et messieurs, vous n'aurez pas votre mot à dire sur ces consultations-là. Et qui sera à la tête de cette consultation? Nul autre ou l'autre nul que Tamara Termitus, qui est la présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et cette dame a suscité la controverse. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est plongée dans une grave crise interne, et ça c'est très récent, cet article, au moment où elle doit amorcer une vaste consultation sur la discrimination systémique et le racisme au Québec a appris la presse. 6 mois après son entrée en fonction, sa nouvelle présidente, Tamara Termitus, est déjà visée par 3 plaintes pour abus d'autorité. 3 plaintes en 6 mois, ça va bien. Mauvaise gestion et manque de respect envers le personnel. Il y a trop de blancs. Madame Termitus se livre à véritable derby de démolition, selon les mots d'un témoin au sein de l'organisme. Cette situation a été un facteur déterminant qui a poussé pas moins de 7 employés à quitter leur poste temporairement ou de manière permanente. Alors, c'est cette dame qui est en charge de la commission sur le racisme systémique à huis clos, qui est une priorité du Parti libéral du Québec, mesdames et messieurs. Il y a notre ami, écoutez, c'est incroyable, hein? Richard Martineau, que la plupart des gens sensés n'aimaient pas nécessairement. Moi, j'ai jamais pas aimé Martineau, mais il y a les baguettes en l'air puis tout ça. Mais je dois dire, lui et Sophie Durocher, mettons, il y a 3 ans, j'avais pas une très bonne opinion de ces gens-là. Sophie Durocher s'est bien rachetée parce qu'elle est une grande défenderesse maintenant de la liberté d'expression. Je lui lève mon chapeau. Et son chum, Richard Martineau, également défend la liberté d'expression et surtout les droits individuels, les droits qui sont garantis, en théorie, par la Charte des droits et libertés du Québec. Donc, il y a un article ici, Commission sur le racisme, Couillard a-t-il peur? Lui, il pense que c'est pour ça que c'était à huis clos. Moi, je pense pas que c'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur les gens qui vont pouvoir s'exprimer. Et il a dit quoi d'intéressant ici? Il n'y a pas plus de racisme systémique qu'il n'y a de culture du viol. Merci. Tout cela est une invention d'une gauche en mal d'ennemis, évidemment, parce que selon la gauche régressive, hein, il y a une montée incroyable de fascistes et de nazis au Québec. Puis évidemment, tous ceux qui sont fascistes et nazis, ce sont les gens qui sont en désaccord avec les doctrines complètement délirantes de la gauche régressive. Et il continue, car il n'y a rien de plus ennuyant qu'un pompier qui n'a pas d'incendie à éteindre. Il passe son temps à jouer au Scrabble ou à cirer ses chaussures. Alors, je pense que Martineau a vraiment bien calé la shot. C'est-à-dire que la gauche régressive, vos justiciers sociaux, ils n'ont pas de raison d'être s'ils n'ont pas un ennemi. Et là, présentement, l'ennemi, c'est la population québécoise au complet. Là, vous allez dire, ben non, ils en ont juste contre les Blancs. Non, ils n'en ont pas juste contre les Blancs. Parce que, par exemple, une personne comme Lamine Foura, qui est notre bord, ben, c'est un ennemi des justiciers sociaux, même si Lamine, c'est un Algérien, musulman, c'est pas grave. Donc, ils sont contre tout le monde qui ne sont pas d'accord avec eux. Et aussi, il y a des stats, je ne sais pas si je devrais vous les montrer. Bon, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai compilé des stats ici. Ben, en fait, pas juste compilé, là. En fait, il y a des... de l'information que j'utilise une fois de temps en temps, soit dans mes conférences, puis tout ça, puis j'ai ça dans un folder. Alors, voici une carte du monde qui a été faite par le Washington Post. Donc, c'est une étude qui a été faite partout sur la planète. Les pays en gris, c'est des pays qui n'ont pas été sondés. Mais si vous regardez ici la gradation de couleurs, je m'excuse pour les gens du podcast qui peut-être ne voient pas du tout de quoi je parle. Je vais essayer de décrire le mieux possible ce qu'il y a sous les yeux des gens qui nous écoutent via YouTube. Donc, vous avez une gradation allant de bleu foncé jusqu'à rouge foncé. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des gens que tu ne voudrais pas avoir comme voisins? Et je crois qu'il y avait une autre question aussi. Est-ce que tu as déjà été témoin d'actes racistes? Et si on regarde les pays en bleu foncé, ça veut dire qu'il y a de 0 à 5%, en fait 4,9% des gens qui n'ont rien répondu, genre « Non, moi, ça ne me dérange pas, c'est qui mon voisin, puis j'ai jamais été témoin d'un acte raciste, genre un blanc qui bûche un noir ou un noir qui bûche un vietnamien ou whatever. » Alors, le Canada, les États-Unis sont des pays très bleus. On remarque aussi en Amérique latine, c'est quand même pas mal bleu, l'Australie. Et si vous regardez ceux qui nous font la morale parfois, le Maroc avec Adil Sharkawi, qui est rouge, c'est un rouge pâle, donc il y a au Maroc entre 20 et 30% des gens qui sont racistes finalement, qui ont répondu à la question de façon positive. Même chose pour l'Algérie. Beaucoup d'Iraniens aussi viennent au Québec par année. Alors, on voit ici un rouge. Eux autres, c'est entre 30 et 40% des gens. Et regardez l'Inde, 40% et plus. Peut-être un des pays les plus racistes au monde. Donc, ça, c'est la map sur le racisme. Donc, globalement, il y a des gens qui nous font la leçon sur le racisme, alors que dans leur pays d'origine, il y a un vrai racisme. Je ne sais pas s'il est systémique ou non, mais il y a définitivement un racisme. Puis on regarde le Canada et les États-Unis, pas de racisme à l'horizon, en tout cas rien de significatif et encore moins rien de systémique. Mais c'est pas grave, on doit vous faire croire qu'il y a un racisme parce que, là voyez-vous, avec les Syriens que Justin Trudeau fait rentrer à pleine porte, avec la passoire qui nous sert de frontière. Étrangement, quand Donald Trump, durant la campagne, parlait de bâtir un mur au sud des États-Unis, je ne sais pas si c'est Coderre qui a dit « Nous autres, on va en bâtir un, nous autres, au sud de notre frontière pour pas que les Américains viennent. » C'est bizarre, il ne parle plus de mur maintenant, alors qu'on aurait besoin d'un. Alors, comme on fait rentrer maintenant des immigrants illégaux qui rentrent, puis c'est le party, les Syriens, etc. Et ces gens-là viennent de pays qui sont beaucoup moins développés que le Canada. Alors, c'est normal qu'ils soient désavantagés quand c'est le temps de trouver un job. Quand t'arrives, tu parles pas nécessairement la langue. T'as étudié dans des écoles qui sont pas reconnues. Tu viens d'un milieu très pauvre où les gens sont pas vraiment développés. Ça prend un certain temps avant que tu t'adaptes. Ça, c'est normal. Moi, j'avais une amie en Thaïlande, puis j'étais dans la vingtaine, puis je disais, hey, sais-tu quoi, moi, je lâche tout, puis je m'en vais en Thaïlande. Dans ce temps-là, je m'entraînais beaucoup, j'étais bien shapé, puis tout, puis je vais me trouver une job dans un gym comme whatever. Tu sais, je suis quand même bien plus grand, bien plus gros qu'eux autres. Puis elle dit, viens pas ici. Il n'y a personne qui va t'engager. Tu parles pas la langue. Ben oui, mais je parle en anglais. C'est pas grave, ça. Personne va t'engager. Personne va engager un blanc qui parle pas Thaï. Ben là, come on, tu sais, si je vais dans un gym, je suis super shapé, ils s'en foutent eux autres. OK, mais de bord, peut-être que je pourrais être prof de français ou prof d'anglais. Oublie ça, là. Va pas là, là. T'es pas adapté à notre société. Puis ma chum m'a dit ça. OK. On regarde les stats sur l'immigration. Ici, les Québécois qui sont tellement racistes. Ici, on voit la répartition des immigrants par lieu de naissance et selon la période d'immigration au Québec. Ça arrête à 2001, mais c'est pas grave, vous voyez quand même la tendance. OK? Si vous regardez... Avant 1961, on s'entend-tu qu'à peu près 90% des immigrants qui venaient d'Europe, okay? Beaucoup de Français, d'Italiens, de Grecs, Portugais. Et après 1961, là, on voit que cette proportion-là, c'est à peu près quoi, 25%? Et l'Asie, puis on s'entend l'Asie, c'est autant l'Asie comme la Chine, par exemple, ou... Ça inclut, j'imagine, l'Iran, le Liban, etc., etc. L'Afrique, ça va inclure le Maghreb, Caraïbes et Bermudes, etc., etc. Donc, si on regarde les gens racisés, ben ils sont en augmentation assez fulgurante versus 1961. Alors, si on était un peuple raciste, est-ce qu'on n'aurait pas continué la tendance, c'est-à-dire... de faire venir ici uniquement des gens qui viennent d'un pays occidental, un pays développé économiquement, un pays développé au niveau de son éducation, qui ont, comme nous, des racines judéo-chrétiennes. Ça n'aurait pas été plus simple de faire ça? Pourquoi qu'on aurait augmenté à ce point-là l'immigration de pays de gens racisés? Et d'autres stats, je ne sais pas, je devrais... passer. Ouais, je vais faire ça aussi. Donc, écoutez, les gens viennent de partout sur la planète pour venir s'installer en Amérique du Nord puis en Europe occidentale parce qu'il y a de l'argent ici, il y a de la richesse. Et nos immigrants, qu'on adore, ne restent pas au Québec. Le problème numéro un de l'immigration, c'est qu'ils ne restent pas. Pourquoi? Parce qu'on est pauvres. Ils vont aller dans d'autres provinces. Ils viennent ici, ils font une couple d'années puis ils s'en vont, c'est trop pauvre. OK? Donc, sur les 50 000 immigrants qu'on fait rentrer au Québec à chaque année, il y en a une bonne proportion qui va partir, pas la majorité, mais quand même. Et ils viennent de partout dans le monde, puis on s'attend à ce qu'ils soient tous pareils. Tu penses, toi, qu'une personne qui vient d'Algérie, okay, donc d'Afrique du Nord, une personne qui vient du Liban, une personne qui vient du Congo, une personne qui vient de Cuba, une personne qui vient de France, de Chine, tu t'imagines que ces gens-là, selon la gauche régressive, ils ont toutes les mêmes valeurs, ils ont toutes les mêmes habiletés, ils ont toutes la même éducation, alors que il y a des différences palpables, par exemple, entre un gars de Montréal, puis un gars de Québec, puis un gars de Saguenay. Si je vous pose la question, par exemple, qui est le plus travaillant entre un Québécois et un Italien? La majorité des gens vont dire un Italien. Parce que on en connaît tous, puis on les voit travailler jour et nuit. Ils mettent de l'argent de côté, ils ont des grosses maisons, ils savent vraiment comment dépenser leur argent, etc., etc. Puis c'est pas du racisme de dire ça. J'ai tous les Italiens que je connais, c'est tous des gros travailleurs. Je peux pas en dire autant que les Québécois. Qui travaille plus fort entre les Vietnamiens et les Québécois francophones? Les Vietnamiens. Qui étudie plus? C'est qui la personne de tes amis qui sortait pas le samedi soir parce qu'il était en train d'étudier ou qui avait des cours de Kumon le dimanche pour approfondir son anglais et ses mathématiques? Les Vietnamiens. Alors, ça se peut-tu que entre tout le monde ici, au Québec, même si on a accès aux mêmes écoles, aux mêmes systèmes de santé, aux mêmes programmes sociaux, etc., qu'il y ait des différences culturelles qui font que certains groupes performent mieux que d'autres? Par exemple, culturellement, il y a plus de divorces chez les Québécois francophones que chez les Vietnamiens, que chez les Maghrébins, mais moins que chez les Haïtiens. Est-ce que ça joue? Parce que le problème avec la gauche régressive, c'est qu'ils ne tiennent pas compte d'aucun facteur culturel. C'est-à-dire que s'il y a plus de Noirs en prison, c'est forcément parce qu'il y a un racisme systémique. Et alors, je dis, bon, mais regarde, il y a 90 ou 95% des prisonniers au Québec qui sont des hommes. Est-ce qu'il y a un système contre les hommes? Ben, ça n'a pas d'allure, là. Mettons, 90% des gens qui sont incarcérés sont des hommes. Il y a forcément un système contre les hommes. Mais non, c'est parce que les hommes commettent plus de crimes. Ah, OK. Pourquoi qu'il y a plus de Noirs en prison? Ah, ça, c'est du racisme. C'est racisme systémique. OK, c'est pas parce qu'ils commettent plus de crimes, non. Ben, vous voyez le double discours, là. Il y a des stats que je ramasse puis que j'avais compilé à un moment donné pour une autre vidéo, puis je vous les montre. Je les ai mis à jour aujourd'hui. Ça, c'est le classement mondial, OK? Des gens qui viennent nous faire la leçon. On prend le Canada, l'Algérie, Maroc, Tunisie en haut. Donc, les pays du Maghreb, OK? Parce qu'il y a parfois des justiciers sociaux qui viennent nous faire la leçon et qui sont issus de ces pays-là. Et il y a des gens aussi, comme la présidente des commissions de la droite de la personne, qui va venir nous faire la leçon aussi. Et c'est une bonne chose de vous montrer des statistiques sur son pays d'origine, parce qu'il vient nous faire la leçon. Alors, regarde toujours qui vient te faire la leçon. Souvent, les prêtres, ils venaient nous faire la leçon sur pas de sexe avant le mariage, puis pas boire d'alcool, etc. Puis les autres, ils abusaient des enfants, puis etc. Il faut faire attention. Aux États-Unis, le leader évangélique qui représentait, je pense, 80 millions d'Américains qui disait que l'homosexualité, c'était un péché, que la drogue, c'était mal, que tromper sa femme, c'était mal. Ben, ce gars-là s'était fait pogner d'une chambre d'hôtel qui a pris du crystal meth avec un prostitué mâle. Alors, faites attention à qui vous fait la leçon. Alors, moi, je donne des petites stats ici. Alors, au niveau de la liberté d'expression, le Canada est rendu maintenant en 22e position. On a dégringolé. On était en 8e position en 2015. L'Algérie, 134e position. Le Maroc, 133e position. Et la Tunisie, 97e position, selon Reporters sans frontières. La recherche et développement en pourcentage du PIB, le Canada, 1,7%. 0% l'Algérie, 0% Maroc, 0,7% la Tunisie. Donc, s'il y a plus de recherche et développement, donc des écoles, ben c'est normal qu'on soit plus avancé technologiquement parlant. Donc, c'est normal qu'on ait des sociétés plus évoluées parce qu'on dépense une bonne partie de notre PIB en recherche et développement, slash éducation. L'indice de démocratie, en fait, c'est le classement. Ça, c'est selon Business Tech. Le Canada serait le 7e pays au monde le plus démocrate. L'Algérie, 114e. Le Maroc, 103e. La Tunisie, 55e. Et je vous invite à faire le lien avec la liberté d'expression. Voyez-vous que ces chiffres-là, ils sont très constants. Plus de liberté d'expression, plus de démocratie. Donc, les gens qui viennent nous faire la leçon, parfois, proviennent de pays qui ne sont pas très, très démocrates. Business Tech a fait une liste aussi des pays les plus racistes au monde. En 16e position, il y avait l'Algérie et 24e position, le Maroc. Et ça, encore là, c'est le Business Tech. Et selon le World Value Survey, le Canada se classe pays numéro 1 au monde comme étant les moins racistes. Alors, comment se fait-il si on est... Mettons, tu sais, on est le numéro 1. Qu'on soit numéro 1, numéro 5, là. Mettons, on est pas mal dans le top du peloton. Systématiquement, quand il va y avoir des études faites sur les pays racistes ou non, le Canada va tout le temps être dans le top 5 à chaque année. Mais là, il y a une urgence d'avoir une commission sur le racisme systémique parce que là, c'est rendu la débandade totale, mesdames et messieurs, la montée de l'extrême droite, la violence à Ouédon, et il se base sur quoi? La tuerie à Québec. OK. Un événement, puis là, la débandade totale. Hey, il y a la montée de groupes d'extrême droite, la meute. Hey, la meute, sont racistes, hein? Ouais, ils sont super racistes, la meute. On n'a pas de vidéo pour démontrer ça. On n'a pas vraiment d'informations pour démontrer ça. Mais ils sont racistes, puis ils sont d'extrême droite. Qui le dit? Ben, le Centre contre la radicalisation menant à la violence. Eux autres nous disent que la meute est d'extrême droite. Et qu'ils sont des radicaux, puis qu'ils sont violents. Sauf que Maxime Fizette supporte les antifas qui, eux, sont vraiment violents. Maxime Fizette, c'est un ancien skinhead nazi qui est rendu un justicier social nazi. Il est toujours nazi. Il a juste changé d'équipe. Hein? Avant, il jouait pour Boston. À ce temps, il joue pour New York. C'est encore ton ennemi. Mais quand même. Très crédible, mesdames et messieurs, cet organisme avec à la tête Herman de Paris Okumba. Et si vous ne l'avez pas entendu, l'entrevue qu'il a donnée à Radio X qui dure à peu près 15 minutes, 20 minutes, ça vaut la peine. C'est n'importe quoi. C'est vraiment 2 millions de dollars jetés à la poubelle. Parce que pour eux autres, l'islam radical, c'est pas une philosophie qui mène à la violence. Ce qui mène à la violence, c'est les dangereux mononcles et ma tante de la meute qui se battent pour la laïcité et la liberté d'expression. Deux concepts supportés par Adolf Hitler, mesdames et messieurs. On continue les statistiques. Un peu plus bas, on voit, ça vient de statistiquemondiale.com et je voulais mettre à jour, parce que ça a été fait l'année passée, je voulais mettre à jour, puis je n'ai pas retrouvé le site web. Alors, il faut me faire confiance là-dessus. Si vous ne faites pas confiance, correct. Alors, Haïti, PIB 7,4 milliards, Maroc 101 milliards, Canada 1,8 trilliards. Mortalité infantile, 48% en Haïti, 27% au Maroc, 4,65% au Canada. La dépense en santé par habitant, 77$ à Haïti, 189 au Maroc, 5718 au Canada. Juste des stats d'Haïti, 70% de la population vivent dans des bidonvilles. Population urbaine, Haïti. Il y a 28% des Haïtiens qui ont accès à l'électricité. Il y a 4% des logements avec des robinets, 8% des logements avec douche ou baignoire, 7% des logements ont des toilettes et l'indice de la démocratie, 3,82 sur 10, 4 sur 10 pour le Maroc et 9,08 pour le Canada. Alors, les gens qui viennent d'Haïti, ils n'ont pas été dans les mêmes conditions que les gens qui viennent de France. ça se peut-tu que les écoles soient moins bonnes que les nôtres? Si tu regardes les investissements par année, mettons zéro, pas de recherche et développement, on s'entend qu'on a des meilleures écoles qu'eux autres. On s'entend qu'on a des meilleures écoles ici qu'au Maghreb ou que dans bien des pays du monde. On peut dire qu'on a des moins bonnes écoles qu'en France ou en Angleterre ou aux États-Unis. Il y a un classement, là. Donc, si tu proviens d'un pays en voie de développement ou sous-développé, puis tu arrives au Canada, c'est possible que tu ne sois pas président des jardins dans 2 ans. Mais les justiciers sociaux et les Haroun Bouazi de ce monde, eux autres vont dire « Ah, tu vois là à l'université ou chez Bombardier ou chez Desjardins, à chaque palier, là, normalement, il devrait avoir une représentation très précise de la population québécoise, quelle qu'elle soit. Parce que c'est comme ça. Hein? Les gens sont tous pareils, ils ont toutes la même culture, sont tous pareils. Fait que normalement, je devrais voir autant de Noirs que d'Arabes, que d'Asiatiques, que de Blancs, etc., dans tous les niveaux de la société. Éboueurs, lecteurs de nouvelles, président de compagnie, entrepreneurs. Et si c'est pas le cas, il y a forcément un racisme systémique. Et c'est un non-sens total. Vous avez vu les statistiques, là. Les gens qui migrent ici viennent de pays, généralement, qui sont beaucoup moins développés que le nôtre. Et eux, ils s'attendent à ce qui arrive ici, puis ils performent tout de suite. Ben voyons donc. Les Vietnamiens, quand ils sont arrivés ici, là, il y avait très, très peu de gens avec des études supérieures, là. 20 ans après l'arrivée des Vietnamiens, il y avait juste 6% des Vietnamiens qui avaient un bac ou plus, et maintenant, c'est 30%. Hey, donnez-leur un break, là, à un moment donné. Et nous, les Québécois, qui sommes accueillants, et d'ailleurs, la vaste majorité des immigrants vont vous le dire, là. Parce que c'est tout le temps les mêmes suspects qui chialent contre nous autres, là. Allez pas penser que les Maghrébins, dans la population maghrébine, que vous allez avoir du monde qui se plaigne puis chiale, là. Non. Vous n'en verrez pas beaucoup, là. Au niveau des Haïtiens, je parle à bien des Haïtiens, il n'y a pas là-dedans qui se plaignent bien, là. En fait, j'ai vu une autre étude, et ça, je ne l'ai pas avec moi ici, mais il y a... C'est 93% des personnes racisées nées ici, 93% des personnes racisées qui sont nées ici et qui font un salaire inférieur à la moyenne, 93% disent que le fait qu'ils font un salaire inférieur n'a rien à voir avec la race. Donc, il y a 93% des immigrants qui sont nés ici, qui sont racisés, qui gagnent moins que le salaire médian, parce qu'il y en a qui font plus que le salaire médian. Je parle juste de ceux qui font moins que le salaire médian. Parce que c'est sûr qu'un immigrant ou un fils ou une fille d'immigrant qui fait plus que le salaire médian, il ne faut pas dire qu'il est victime de racisme. Il fait plus que la moyenne. Je parle juste de ceux qui font moins. Il y a seulement que 7% de ces gens-là qui sont d'accord avec Haroun Bouazi. Où il prospère. 93%, puis je vais retrouver la stat. Au pire, je sais que je l'ai à mon bureau. 93% disent « Je fais moins, mais ça n'a rien à voir avec le racisme. J'ai fait moins d'études. Peu importe la raison, j'ai choisi un métier qui n'est pas payant, mais c'est un métier que j'aime. » Toutes sortes de raisons. 7% vont dire « Je gagne moins parce, à cause de ma couleur. » 93% vont dire « Ça n'a rien à voir avec ma couleur. » Ça, c'est quand même quelque chose. Et, c'est ça. Est-ce que je vais enfoncer le clou un peu plus? On va parler d'homophobie maintenant. Puis ça, j'en ai parlé dans ma conférence. Ceux qui veulent me booker, vous pouvez m'envoyer un inbox. Mais ça prend du public, évidemment. Si vous êtes 3, je ne vais pas aller faire un show dans votre salon. Alors, ici, parlant d'Haïti, minorité sexuelle, et un article du 9 août 2017. Il y a une semaine, le Sénat haïtien a voté une loi étonnante, car elle interdisait une pratique qui n'avait auparavant jamais été autorisée. le mariage entre conjoints de même sexe. Dans le même souffle, les sénateurs ont aussi prohibé tout geste susceptible de faire la promotion de l'homosexualité. Les contrevenants s'exposeraient à une peine de prison maximale de 3 ans. Puis ici, vous voyez, l'organisme qui s'appelle ILGA, c'est International Lesbian and Gay Association. Et là, ils viennent de sortir un rapport de 2017. Moi, je le télécharge à chaque année parce qu'ils font vraiment une bonne nomenclature des pays. C'est quoi qu'est-ce qui est permis au niveau de l'homosexualité, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est quoi le nom des lois, etc., etc. Et j'ai téléchargé aujourd'hui le plus récent rapport et vous serez étonné d'apprendre que dans les pays où on reçoit beaucoup d'immigrants, notamment Haïti, les pays du Maghreb, le Liban, ils ont tous des lois qui sont contre finalement l'homosexualité, qui vont criminaliser à quelque part l'homosexualité. Et on vient nous faire la morale sur le racisme systémique qu'il y a au Québec. Alors que je vous ai montré des études qui démontrent que dans ces pays-là, sont d'une part beaucoup plus racistes que le Canada ou le Québec et que les droits de l'homme souvent ne sont pas respectés. N'oubliez pas que dans ces personnes-là, puis encore là, je parle des activistes, les justiciers sociaux, je parle pas des minorités visibles. Vous savez que j'aime beaucoup la diversité, j'aime beaucoup les immigrants qui sont ici. J'ai énormément d'amis qui sont racisés. Je parle vraiment des activistes, là. Tu sais, des Cora Lemoine, je sais pas trop c'est quoi son nom, puis des Yagi Singh de ce monde, puis les Arun Boisi, puis les Will Prosper. Toutes des gens qui ont pas la moitié d'une couille pour venir débattre avec moi en passant. Ces gens-là vont faire croire que vous êtes des racistes et ils vont s'allier tous les groupes de pression ensemble dans l'intersectionnalité féministe de troisième vague, également connue sous le nom des féminazis, des antifas, des apologistes de l'islam, les Black Lives Matter, tous ces petits groupuscules-là qui se mettent ensemble et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tu sais, je veux dire, que tu aies un apologiste de l'islam puis une féministe dans le même groupe, c'est un délai total. Là. C'est comme si tu avais un parti nazi avec des juifs dedans. Tu sais, ça ferait aucun sens. Si les féministes étaient vraiment sérieuses, ben, ils combattraient l'islam politique. Là. Ils ne la défendraient pas, là, si tu veux être le moindrement logique. Là. Mais en tout cas. Et là, bientôt, il va y avoir au Québec une commission sur le racisme systémique avec ce qui semble être une folle comme présidente. Comment qu'elle s'appelle d'ailleurs? Madame Tamara Termitus à huis clos où des justiciers sociaux entre eux autres, parce que c'est exactement ça qui va arriver, là, vont pouvoir se plaindre et élaborer des stratégies comme ils l'ont fait dans le congrès contre la radicalisation, là, qui était de la masturbation de gens qui reçoivent des subventions pour justifier leur travail, etc., etc. Là. C'est comme si il y avait des chasseurs de serpents au Québec, là, c'est un métier des chasseurs de serpents. Puis, il n'y en a pas de serpents ici, là, mais eux autres, ils vont t'en trouver des serpents, là, parce que là, écoute, là, c'est dangereux. Puis, tu sais, il faut qu'ils justifient leur travail. Alors, tiens, je viens d'inventer ça. Des chasseurs de serpents. Ce sont des chasseurs de serpents. Il n'y a pas de serpents, mais inquiète-toi pas qu'ils vont en trouver pour justifier leur job. Et là, ce que je fais présentement, mesdames et messieurs, c'est du populisme et de l'anti-intellectualisme. Oui, oui, oui. Parce que je discrédite ces grands penseurs qui, en fait, sont des gens qui ont besoin de soins psychiatriques et de médication. Alors, c'était ça, mesdames et messieurs, c'est ça le live de ce soir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vais prendre vos questions dans le chat, mais sur le podcast, l'émission s'arrête ici. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain vidéo slash podcast. Le caméra sonne pour dormir de la nuit. J'ai même pas le temps pour une suite. M'avoir conduit les filles écoles. La vague se réveille haute, assez folle. Le soupon est encore bien foule. Je contourne toutes les crises de nid de poule. Moi, j'en ai deux.